Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est de retour dans les studios de la rue Bayard. Flavie Flamand, qu'on retrouvera à la fin de notre émission, elle va faire le chemin inverse. Hein. Vous la retrouverez au Mondial de l'Automobile après l'heure du crime. L'émission a été préparée, comme tous les jours, bien sûr, par Justine Vigneault et Laure Broulard. C'est Sébastien Rocheron qui est à la technique de l'heure du crime aujourd'hui. Et cette émission est évidemment dominée par une question: qui a tué le juge Michel? C'est le titre du livre de mes invités, Jean-Marie Pontaut et Éric Pelletier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous publiez ce livre aux éditions Michel Lafon dans une semaine, très exactement le 23 octobre prochain. Et comme je le disais tout à l'heure, avant les infos, vous avez vraiment retracé, repris la trace, en fait, très minutieusement de tous les principaux protagonistes de cette affaire. On va en parler avec vous parce que tout le monde sait que même si on a arrêté les assassins et celui qui a tiré sur le juge Michel, il reste par contre beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de questions sur le ou les commanditaires qui, eux, n'ont jamais eu maille à partir avec la justice. Alors, avant de vous donner la parole, un retour de mémoire, si j'ose dire, nous sommes le 21 octobre, donc 1981, le juge d'instruction Pierre Michel, qui a 38 ans, est abattu de 3 balles de 9 mm par 2 hommes casqués circulant à moto, boulevard Michelet, à Marseille, alors que lui-même rentre chez lui, également à moto, pour déjeuner avec son épouse et ses deux fillettes. Et quelques temps plus tard, très rapidement, le correspondant d'RTL à Marseille, Robert Cessieux, donne sur notre antenne les premières informations qu'il a pu recueillir sur place.
Ce sont deux tueurs, des motards montés sur un gros cube, qui ont abattu le juge Pierre Michel. Pierre Michel, premier juge au tribunal de grande instance de Marseille, venait de quitter le palais de justice pour aller déjeuner à son domicile. Il avait emprunté le boulevard Michelet et venait de ralentir pour emprunter la contre-allée lorsque les tueurs se sont portés à sa hauteur. Il y a eu 3 coups de feu, 2 balles ont atteint le juge dans la tête, une autre l'a touché au thorax. La mort a été instantanée. Alors bien sûr, c'est un travail délicat que va devoir mener maintenant la police. Le juge Michel s'occupait des dossiers les plus brûlants du banditisme. C'est lui qui enquêtait par exemple sur la tuerie du bar du téléphone qui a fait 10 morts à Marseille. Spécialisé dans les affaires de drogue, il a reçu la semaine dernière les magistrats italiens qui enquêtent sur la mafia et leur a délivré, paraît-il, nombre de renseignements. Il était donc en première ligne, on ne l'a pas raté.
Évidemment, la mort l'assassinat d'un juge d'instruction, selon les règles de la pègre, quoi, le contrat, c'est rarissime, heureusement. Après l'assassinat du juge Renault en 1975 à Lyon, qui est resté impuni d'ailleurs, le juge Michel était le deuxième magistrat à être tué sur ordre de la pègre depuis l'occupation. Alors Jean-Marie Pontaut, Éric Pelletier, avant, on viendra tout à l'heure à l'enquête, on viendra sur les hypothèses, sur les zones d'ombre, mais d'abord, la personnalité de cet homme, on l'appelait le cow-boy, on l'appelait le justicier, j'ai même trouvé dans des articles, monsieur 1000 jours de prison. Est-ce que c'était vraiment un magistrat à part?
Oui, c'était un magistrat à part, surtout à l'époque. C'était un magistrat extrêmement atypique par rapport à l'époque, parce que c'était un peu le précurseur de ce que vont être plus tard les grands juges d'instruction, qui ont une espèce de, qui se battent pour la liberté, pour leur liberté, pour leur indépendance, et qui utilisent des moyens qui n'étaient pas des moyens qui existaient avant. Avant, les juges restaient plutôt à l'extérieur, ils participaient pas directement aux enquêtes, ils étaient pas directement liés à l'activité des policiers.
Lui, il allait sur le terrain.
Va descendre dans l'arène complètement et va. Il découvre, quand il arrive à Marseille, on en parlera parce que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, il découvre cette ville qui est une ville, on dit vénéneuse à l'époque, où le banditisme il y a une tradition de la pègre formidable, il découvre...
Mais les caïds ont pignon sur rue, quoi.
Les caïds ont pignon sur rue, pognon sur rue, comme disait un journaliste. Mais effectivement, il y a eu une première période de la drogue, la French Connection, qu'on connaît avec les résultats avec les Américains, et là, il va découvrir que la drogue continue, qu'il y a toujours un banditisme, ce qui est beaucoup plus différent, subtil, raffiné. Il va rentrer en guerre, effectivement, dans une vraie guerre très dure avec ce banditisme, en n'hésitant pas sur les méthodes.
Éric Pelletier, on peut parler de croisade ? personnel ?
En tout cas, d'un engagement personnel très fort. Il est sur la ligne de front, il est en première ligne. Maintenant, je crois qu'il faut faire attention à une chose, c'est-à-dire qu'avec le temps, on a peut-être un peu oublié les nuances. C'est un juge effectivement très offensif. Il y a un dicton qui circule dans les cellules, au Baumettes, qui dit « Ah bah tiens, ton juge, c'est le juge Michel, donc tu vas faire les présidentielles. Tu vas passer 7 ans à l'époque. »
D'accord.
Présidentielle, c'est 7 ans en cellule. Mais c'est pas un juge hors la loi. C'est un juge qui utilise toutes les règles de l'arsenal législatif. Ouais. Il est offensif, il est ultra répressif. C'est vrai, je rappelle une chose, c'est qu'il est opposé à la peine de mort, farouchement, éthiquement.
Ouais. Et l'un de ceux qui ont fondé le syndicat de la magistrature.
Hein, alors fondé, en tout cas adhéré au syndicat de la magistrature.
Ouais. C'est vrai qu'il a une façon de traiter les clients qui n'ont pas l'habitude d'être traités comme ça. Dans les interrogatoires, c'est une espèce de face-à-face invisemblable. Et quand les types sont très étonnés, ils n'ont pas l'habitude qu'un juge leur parle comme ça, et quand il y a certains qui disent « Mais vous êtes fou », il se tourne dans sa greffière et il dit « Notez, madame, je suis fou. » Et donc, ça rend les types effectivement fous en face de lui.
Et en plus, il met les femmes de Caïd en prison.
Oui, il estime que les femmes ont une responsabilité, ce qui est d'ailleurs réellement vrai, en particulier dans l'argent qui est mis à leur compte, toutes les propriétés, et donc, il va mettre en prison dont une femme qui va être enceinte, qui est enceinte de 8 mois, ce qui va provoquer dans le milieu qui ne comprennent pas. Et lui, il estime qu'il n'y a pas que la règle du milieu, ça n'est n'existe pas.
Alors, il y a une chose, et on comprend mieux avec ce que vous venez de dire tous les deux, qu'il y a une véritable haine dans Marseille qui s'est développée. Quand on apprend sa mort, là, on vient d'entendre ce que disait Robert Cessieux, mais quelques minutes après, la nouvelle se répand à la prison des Baumettes, il y a un concert de casseroles pour saluer la mort du juge.
Oui, les truands sont absolument ravis. Il y a même, il n'y a pas que les truands. Il y a même un avocat qui aura cette phrase extraordinaire qui dira, c'est pas, ce n'est pas une fois, c'est pas une faute, c'est pas une erreur judiciaire, ce qui est absolument ignoble quand même.
Oui. Ah ben, on reviendra là-dessus parce que vous l'avez rencontré, celui-là. Oui. Je disais tout à l'heure que vous êtes rapproché des personnages principaux de cette affaire et vous avez longuement parlé avec cet homme. Et aussi avec l'ancien patron de la PJ de Marseille, on y viendra tout à l'heure. Alors, évidemment, la question tout de suite, qui c'est le titre de votre livre, c'est la question qu'on se pose dès qu'on apprend l'assassinat du juge. Qui, pourquoi, bien sûr. Et les premières réponses, on va les évoquer ensemble à travers un nouveau document RTL qui date du lendemain du meurtre. RTL consacre un dossier spécial de la rédaction à l'assassinat du juge Michel, ça se passe dans le journal de Jean-Claude Larivoire. Et à cette occasion, Robert Cessieux, qui est donc notre correspondant sur place, décrypte pour les auditeurs les différentes menaces qui pesaient sur le juge.
Gênant, Pierre-Michel l'été. En 10 ans de carrière au tribunal de grande instance de Marseille, il s'était forgé une réputation, celle d'un magistrat intransigeant, rigide et froid, étranger à toute compromission et dont les méthodes ressemblaient plus à celles d'un policier qu'à celles qui sont enseignées à l'école de la magistrature. Résultat, il s'était créé dans Marseille quelques solides inimitiés, pour ne pas dire quelques haines féroces. Et si ses amis le pleurent aujourd'hui, je dois à la vérité de dire qu'on affichait hier soir dans certains bistrots de Marseille de larges sourires. Menacé, Pierre-Michel savait qu'il l'était. Il en était parfaitement conscient, et d'ailleurs tout le monde l'était aussi, en particulier son ami, le juge Étienne Secaldi.
Tout magistrat qui fait son métier d'une certaine manière est menacé par les inimitiés qu'il suscite. Il le savait, il ne s'est pas détourné de son chemin, il a continué à faire son métier.
Mais il avait peur. Ses amis ont noté ces derniers temps un brusque changement dans son comportement. Il avait d'ailleurs confié à quelques intimes que sa vie était en danger et lui, qui détestait les armes à feu, avait glissé un Smith & Wesson dans sa sacoche. En outre, il s'était mis à emprunter leur voiture à ses amis pour, disait-il, passer inaperçu.
Voilà, donc c'était Robert Cessieux à l'époque, le lendemain de l'assassinat. On va faire une pause tout de suite. On retrouve Jean-Marie Ponto, Éric Pelletier tout de suite après pour revenir sur ce qui est au cœur de leur livre, qui a tué le juge Michel, c'est-à-dire les réussites du juge. Et puis aussi certains échecs où on va l'aborder ensemble dans un instant, deux dossiers énormes, mais qui lui ont fait comprendre que la pègre avait beaucoup de pouvoir.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et les invités de l'heure du crime aujourd'hui, Jean-Marie Ponto, Éric Pelletier, deux journalistes d'investigation qui ont mené l'enquête sur ce dossier très complexe de l'assassinat du juge Michel. Ils publient la semaine prochaine leur livre, le résultat de cette enquête, aux éditions Robert aux éditions Michel Lafon. Qui a tué le juge Michel? C'est le titre qui est en couverture. Ce livre, donc, paraît le 23 octobre. Alors, vous y avez fait allusion, on va faire avant d'en venir à ce que je disais, avant la pause, vous y avez fait très rapidement allusion, Jean-Marie Ponto. Vous avez rencontré un certain nombre de gens, c'est-à-dire, et vous publiez ces entretiens. Il y a un entretien avec un avocat, un ancien avocat, un avocat déchu, on va dire, Fraticelli, dont on va beaucoup parler dans un petit instant, puisqu'il est intimement mêlé à l'un de ces dossiers où le juge Michel s'est rendu compte que la pègre avait vraiment beaucoup de pouvoir. Vous avez rencontré aussi le patron de la PJ de Marseille de l'époque, des spécialistes de la lutte en anti-mafia en Italie.
Suisse.
Et voilà. Et puis également des gens encore plus près de l'assassinat, si j'ose dire.
Oui. Oui. On a essayé de rencontrer le maximum de gens, juges, avocats, policiers, même truands, pour essayer de mieux comprendre comment ça s'était passé.
Oui. Alors. Le juge agit comme vous l'avez décrit il y a un instant. Ça bouge beaucoup autour de lui. Les policiers l'adorent, on peut le dire.
Ah oui, ça ouais. C'est sûr. Parce qu'il est près d'eux, il les aide. Les policiers lui donnent des écoutes téléphoniques qui, à l'époque, c'était pas illégal, mais ils n'étaient pas connus de la justice. Et il va chez eux, il y a des réunions, il leur montre. Et il va même, quand il y a un laboratoire qui tombe, il va sur les lieux au moment de l'arrestation des gens.
Il y a même un patron des stupes qui nous explique que finalement, il était considéré comme un membre à part entière de la brigade. Il venait, il s'asseyait, il assistait au briefing, il décidait tous ensemble et collectivement des cibles à venir.
Oui, il a eu même des problème avec sa hiérarchie parce que il avait acheté, vous le racontez, il avait acheté un magnétophone pour que les policiers puissent faire des écoutes.
Voilà,
ils
n'avaient
pas les moyens, ils n'étaient pas dotés de...
En tout cas, c'est ce qu'on expliquait. Ouais. Il fait tout pour combattre le crime. Ouais. Les flics ont besoin d'un magnétophone. Il en trouve un sur des fonds de justice. Il leur prête et ça lui est reproché par sa hiérarchie, ce qu'il vivra très très mal.
Alors, on va parler des deux affaires d'abord où il a vraiment vu que même son propre pouvoir avait des limites. Peut-être Jean-Marie Ponto, on peut commencer par ce que vous appelez le pouf
de Calvi.
Alors, faut vraiment expliquer qu'est-ce que ça veut dire le pouf.
C'est une histoire assez incroyable. C'est d'ailleurs à cette occasion que je l'ai rencontré. Il avait fait tomber un proxénète de la Côte d'Azur et il entend une des filles qui est une prostituée et elle lui raconte une histoire qui paraît invraisemblable en disant « J'ai travaillé longtemps au sein de la Légion étrangère, du camp de la Légion étrangère à Calvi, en Corse,
dans
le camp, dans ce qu'ils appelaient aimablement le centre culturel, où les filles étaient recrutées, ils payaient avec des cartons, il n'y avait pas d'argent, c'était en plus vraiment de l'abattage, c'était 40 à 50 personnes par jour, c'était assez épouvantable.
Dans l'enceinte du camp,
avec deux sous-maîtresses qui surveillaient les filles, et tous les lundis, ils allaient en ville envoyer l'argent au proxénète. Ouais. Donc il est ahuri, alors... Le pouf, ça vient de l'allemand qui veut dire bordel. Voilà. Et donc, c'était une façon de cacher le nom. Et le pouf, tout le monde le savait. Alors, il semblait qu'à la Légion étrangère, ça existait à l'étranger, quand les troupes étaient à l'étranger. Mais en France, sur le territoire français, ça paraissait tellement invraisemblable. Ouais. Et là, Michel va quand même d'abord s'indigner, va faire arrêter les proxénètes qui disent oh, bah oui, c'est elle qui nous envoie de l'argent. Nous, on ne pouvait pas les empêcher d'envoyer de l'argent. C'est les jeunes filles qui voulaient nous payer, comme ça. Et puis, surtout, et c'est là où ça va. Coincé, il dit dans le fond le responsable proxénète, c'est le militaire qui dirige le camp, qui est le colonel Hérulin, qui va être célèbre plus tard parce que c'est celui qui va sauter sur Colvézi.
Sur Colvézi, mais là il veut lui l'inculper pour proxénétisme
parce qu'il est responsable.
Il protège
Et ça lui semble relativement évident. Oui. Et là, il va se heurter à un mur absolu de la part de la hiérarchie judiciaire, qui va lui dire vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas mettre un haut militaire dans un box à côté d'une bordelière. Et évidemment, on ne peut pas l'empêcher d'inculper, comme ils disaient à l'époque. Ouais. Mais on lui fait comprendre que s'il inculpe, il ne s'occupera plus que des chèques sans provision. Ouais. Et qu'il sera mis sur la touche. Or, comme comme voilà, lui,
donc
pour
il prend
lui.
Sur lui
voilà, et comme lui, sa passion, c'est quand même de trafic en drogue, il accepte. Et alors, petite question, moi je l'ai rencontré à ce moment-là, et dans des conditions assez amusantes, parce qu'on s'est rencontré à l'hôtel du Vieux-Port. Moi j'étais un peu tendu, c'est un personnage comme ça. Et il était, et on s'est perdu dans les chambres. On cherchait le bar, et il était hilar, c'était plus le même homme. Il m'a dit, si on nous voit tous les deux sortir d'une chambre, on va croire qu'on sort d'une chambre. Et là, j'ai découvert un homme qui était vraiment, non seulement séduisant, mais ouvert, plutôt drôle. Ouais. Mais ça, c'était une blessure terrible. Parce qu'il a compris, il a cédé, il a compris qu'il y a des moments où il fallait arrêter. Et c'est à la suite de ça qu'il s'inscrit au syndicat de la magistrature.
Ouais. Et alors, Éric Pelletier, il y a une autre occasion, je ne sais plus chronologiquement, mais je crois que le pouf de Calvi, c'est avant. L'histoire des grâces médicales. On va en dire un petit mot juste avant la pause, on continuera après. C'est quoi cette histoire de... c'est un réseau qui permet à des voyous d'échapper à la prison pour raison médicale avec la complicité de médecins.
C'est ça, c'est ça. Il se rend compte que finalement, il a beau incarcérer un certain nombre de membres du milieu, ils ont tendance à être subitement atteints de maladies graves qui nécessiteraient, quasi dans la journée, leur sortie de prison. Et ça, il le vit très mal parce qu'il soupçonne que derrière cet avis médical, il y a plus que ça. Et il y a peut-être des contreparties. Donc ça, c'est toute l'affaire des grâces médicales auxquelles
il va... complicité, ce que les détenus appellent ça la chaîne du bonheur.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et en réalité, il va, une première fois, il y a un truand qui va, un trafiquant de drogue, qui va réussir à en sortir vraiment. Il va essayer d'en envoyer un deuxième, c'est-à-dire qu'il dit, si à Marseille, à l'hôpital de Marseille, il faut faire une contre-expertise à Paris. Et il veut en envoyer un autre à Paris, en disant, on prend pour un imbécile, à Fresnes, et à ce moment-là, il y a un blocage total, pareil. Les plus hautes autorités lui disent, il n'est pas atteint, il est vraiment atteint d'un cancer, il ne peut pas être soigné, il doit sortir. Et je vous rassure, il est toujours vivant, la personne qui avait un cancer, qui devait avoir un cancer.
Et l'avocat dont on a cité le nom tout à l'heure, dont j'ai oublié le prénom, Fraticelli, a été impliqué dans cette affaire, puisque c'était...
C'est l'avocat de
souvent
du
ses
truand.
Clients,
qui bénéficiait de ça, avec l'aide, dit-on, du médecin inspecteur du médecin des prisons, des baumettes, et il y a eu indiscutablement, de la part de la haute administration pénitentiaire, légère aide.
Oui, alors après une cavale assez longue, il faut dire que Fraticelli a été relaxé.
Oui, ils ont tous été relaxés. Mais il a été radié du barreau.
Ce qui était aussi une raison de plus pour l'amertume du juge, quand même.
Oui, il avait l'impression qu'il se heurtait quelque chose qu'il n'arrivait pas à maîtriser, à dépasser.
Alors, on va faire une nouvelle pause dans l'émission. Après, on va reprendre l'enquête. On va revenir à ce jour du 21 octobre et aux jours qui ont suivi, et à l'enquête sur le terrain de la police, avec cette omerta, évidemment, générale dans la ville de Marseille.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Avec mes invités Jean-Marie Ponto et Éric Pelletier, qui publie la semaine prochaine aux éditions Michel Lafon, qui a tué le juge Michel. Donc cette enquête qu'on revisite à grands traits là, évidemment, parce que le livre est extrêmement fouillé et ça se lit comme un polar, mais c'est un vrai polar, quoi. Bon, et dans un instant on va en venir avec ce que vous avez pu glaner sur l'enquête et les méandres de l'enquête policière. Mais on va dire tout de suite, et on va revenir à un document RTL, rappeler que c'est finalement une moto abandonnée, et ça veut dire que beaucoup de policiers le disent, la chance, ça fait partie du métier d'enquêteur. Donc on trouve une moto abandonnée, qui est la moto qui a été abandonnée par les tueurs, deux jours plus tard, et on va la décortiquer, évidemment, mais ça, vous allez comprendre dans un instant. Et en février 82, donc, les enquêteurs annoncent clairement que, ça y est, ils connaissent l'identité des propriétaires de la moto. Alors, sur RTL, on va entendre ce qu'en disait Pierre-Marie Christin, qui revenait sur un véritable travail de fourmi des enquêteurs.
La moto des assassins, qui était un engin volé, évidemment, a été examinée centimètre par centimètre. Et après des semaines de recherche, on a fini par trouver une toute petite empreinte, celle d'un pouce cicatrisé, et aussi une inscription presque effacée à la craie sur la batterie. Cette inscription, c'était un prénom, Jean-Claude. Il restait à identifier le propriétaire de l'empreinte, ce qui donc aurait été fait. C'est-à-dire que les policiers de Marseille sauraient maintenant au moins qui a volé la moto et qui l'a eu quelques heures heures avant le meurtre. Ça n'est peut-être pas l'assassin, mais en tout cas, c'est une piste extrêmement sérieuse. Quant à savoir qui est responsable du meurtre, on a parlé de la mafia, on a parlé d'une affaire de drogue, de la suite des meurtres du bar du téléphone. Eh bien, pas du tout, selon Cessieux, ce serait beaucoup plus modestement, si on peut dire, le milieu marseillais local, qui d'ailleurs, dans cette affaire, aurait indirectement participé à l'enquête, un peu comme dans le film M le maudit, quand on recherche un assassin tueur de fillettes et que le milieu qui en a assez de voir la police se partout dans la ville finit par collaborer pour se débarrasser de toute cette force de police et trouver l'assassin.
Il faut dire tout de suite, Éric Pelletier, d'ailleurs, vous le dites longuement dans votre livre, que cette fameuse empreinte, elle a été trouvée, mais pas n'importe où, hein, sur la moto.
Non,
hein,
pas n'importe où, vous l'avez dit, il y a la chance, mais la chance, il faut la provoquer. Ouais. Et effectivement, les policiers vont désosser cette moto et au revers d'un autocollant, un autocollant pour une marque d'huile, ouais, ils vont découvrir une empreinte. Une empreinte, là aussi, il faut se replonger 33 ans en arrière. On n'a pas l'informatique qui aurait permis quasi immédiatement de faire le lien avec une personne si elle était connue du fichier.
Il n'y a pas de fichier automatisé.
Pas automatisé. Ce n'est pas informatisé. Ouais. Donc, il faut se replonger dans les fiches en espérant que quelque part, le délinquant est fiché à Marseille. Et tout ça va durer des mois, jusqu'au réveillon, très précisément, où le 31 décembre 1981, on va découvrir l'identité de la personne qui a laissé son empreinte au revers de cet autocollant.
Et alors, cette identité et ces identités, parce qu'on arrive à plusieurs personnes, c'est ça qui va alimenter la piste Zampa. Peut-être un mot d'explication, Jean-Marie Ponceau.
Oui, ça va alimenter la piste Zampa, parce que ces gens qui ont volé la moto sont des proches de Gaëtan Zampa. Il faut dire Gaëtan Zampa, qui est le grand, enfin qui est le parrain, un des parrains, mais sans doute le plus important du milieu de Marseille, qui a, comment on dit, ses pignons sur rue, qui a des
successeurs des Guérini,
qui est très. Et autour, par exemple, celui qui a eu la moto avait un blouson que lui avait donné Zampa en prison. Il avait aussi une ancienne moto que lui avait donné Zampa. Donc effectivement, on va se tourner vers Zampa, mais on va surtout, les enquêteurs vont tomber sur un mur. C'est Sierra Maglia, c'est le milieu dans ce qu'il a de plus fermé. Et il refusera absolument, quand on lui disait est-ce que votre identité, il se tournait vers l'avocat, il disait est-ce que je peux répondre, maître, à mon identité. Donc on est sur, et il va bloquer l'enquête, ça va être le coupe-feu, le coupe-circuit, et on ne pourra pas remonter plus loin. Sauf, il faudra attendre donc 5 ans qu'une autre équipe soit arrêtée dans des conditions complètement différentes pour qu'on trouve la vérité.
Alors là, on va s'arrêter, on va faire un arrêt sur image sur, je disais tout à l'heure, on parle des échecs relatifs du juge Michel, mais aussi de ses succès. Et l'un de ses succès, une enquête vraiment dont il pouvait être fier, a aussi alimenté les hypothèses en disant c'est peut-être à cause de cette affaire dont vous allez nous parler maintenant, Éric Pelletier, que on a décidé de supprimer ce juge qui en savait trop.
Oui, l'hypothèse dont vous parlez, c'est celle de la mafia, qui est une hypothèse logique à l'époque, bien évidemment, parce que le juge Michel, lorsqu'il est tué, eh bien, vient de recevoir chez lui, dans son bureau à Marseille, deux magistrats italiens avec lesquels il travaille depuis un an maintenant, sur une énorme affaire qui a été initiée à Marseille par lui-même, par les services de police également, et qui concerne la découverte de deux laboratoires directement en Sicile. Alors,
pourquoi ? Oui, mais attendez, restons là-dessus quand même, parce que ça, c'est intéressant. C'est donc finalement sous l'impulsion du juge Michel que la police française prévient la police italienne en disant il y a deux ou trois voyous marseillais qui vont arriver donc chez vous. Et des policiers français mènent l'enquête aussi sur place.
Hein, exactement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que véritablement, Marseille est l'épicentre de l'épidémie d'héroïne sur la planète entière. Pourquoi ? Parce qu'à Marseille, on a les chimistes, on a le savoir-faire. Donc ces chimistes s'exportent. Et les trois dont on vient de parler vont partir à l'été 1980 en Sicile, à Palerme, pour manifestement aider la mafia à transformer la morphine base.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une vraie connexion après, parce que la French Connection avec un F majuscule, c'est fini.
On dit ça se termine.
Il n'y a plus de laboratoire, on les a fermés, etc. Et on s'aperçoit que là, il y a un vrai lien entre Marseille et la Sicile, avec peut-être... d'ailleurs, ils vont découvrir, je crois, aussi du matériel de labo. Donc les Français sont venus expliquer aux Siciliens comment ça marche.
Alors expliquer, ils gardent leur savoir-faire pour eux, parce qu'ils n'ont pas l'intention de perdre ce qui les fait vivre. Mais en revanche, ils tournent effectivement pour la mafia italienne, pour l'une des mafias italiennes, Cosa Nostra en l'occurrence. Et on a rencontré l'un des procureurs de l'époque qui travaillait sur ce dossier et qui nous raconte à quel point il a été totalement surpris. Il savait bien que quelque part sur l'île, des labos devaient tourner. Il savait bien que Cosa Nostra était impliqué dans le trafic, notamment à destination des États-Unis. Mais c'était, figurez-vous, en cet été 1980, la première fois que les Italiens mettaient la main sur un labo directement en Sicile.
Et sur un personnage important de la mafia.
L'un des parrains de la mafia, Gerlando Alberti.
Alors, on va faire une pause tout de suite et on va continuer en suivant le fil de votre enquête qui se trouve dans ce livre qui a tué le juge Michel, à la fois pour rappeler quand même comment on est arrivé aux tireurs, à ceux qui ont matériellement tiré, volé la moto, etc. Et puis ensuite, alors, les grandes questions, les grands points d'interrogation sur le ou les commanditaires réels de cet assassinat.
L'heure du crime sur RTL.
Et nous revenons maintenant alors au cœur de l'affaire, c'est-à-dire l'enquête qui va être menée pour identifier les assassins. Jean-Marie Ponto l'a dit tout à l'heure, il faudra plusieurs années. C'est le juge Guérin qui, dès le début de l'année 1982, a cette enquête en charge. Et il va décider, Eric Pelletier, la drogue, pour lui, est au centre de cette histoire.
Ah, c'est certain. Enfin, en tout cas, l'un des dossiers de drogue, parce qu'il y en a tellement dans le cabinet de Michel qu'il faut savoir
lequel.
Et puis, parallèlement, depuis Paris, cette fois-ci, il va y avoir des petits signaux d'alerte qui vont s'allumer, mais sur une filière de drogue, j'allais dire malheureusement assez classique, parce que à cette époque-là, l'épidémie d'héroïne, la blanche, est tragiquement courante. Elle se développe dans toutes les grandes villes françaises, et un tuyau parmi d'autres, une écoute parmi d'autres, permet de faire le lien avec une équipe qui est une équipe marseillaise, qui tourne à l'international. Et là, il va y avoir, quand je dis à l'international, il faut là aussi peut-être s'arrêter un instant sur ce que c'est que l'international à l'époque. C'est à la fois la plaine de la Beka, donc ils vont tourner avec les officiers sous la protection des officiers syriens. Ensuite, on monte dans un jet privé et on va tourner via le Mexique à Phoenix, en Arizona. Donc voilà l'arrière-plan du trafic de drogue à l'époque. Et se monte une opération d'infiltration franco-américaine entre la DEA et les stupes parisiens. Ça n'apparaît pas du tout dans le dossier, ça c'est une des révélations du livre. C'est quelque chose qui va se faire, j'allais dire, clandestinement. Et on va acheter, la DEA va acheter sur des fonds américains, 3 kilos des fonds américains, 3 kilos de morphine base qui vont être injectés comme ça dans la filière. Et l'un des trafiquants va aller récupérer cet attaché caisse à la gare Saint-Lazare à Paris. Et de là, on va aller jusqu'en Suisse, dans un petit village où tout va se dénouer. Alors là, on est dans un décor totalement champêtre, au milieu des vaches, des collines, et dans un chalet totalement isolé, cette bande de Marseillais va tourner et va commencer à tourner cette morphine base. Et les enquêteurs suisses, français, américains vont décider le 11 novembre 1985 d'arrêter toute cette bande.
Alors Jean-Marie Ponto, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'en fait, ils ont tapé juste, quoi.
Ils ont tapé juste, mais évidemment, ils le savent pas. Voilà. Les Américains sont tout de suite là. Donc il y a un de ceux qui a été arrêté, qui s'appelle Scapula, qui a déjà négocié avec les Américains, qui a déjà été aux États-Unis, où il a été entendu dans les tribunaux, où il a donné beaucoup de choses. Et puis, il y en a un de l'équipe, qui s'appelle Gingrid, qui va dire, au terme d'un interrogatoire assez subtil avec un policier français qui dit, on parlait longtemps et puis je lui ai dit, ben enfin, pour moi, je voudrais savoir qui est-ce qui a tué Michel. Il dit, j'ai vu dans son œil quelque chose s'allumer, qu'il avait envie, il avait envie de le dire. Et finalement, il va dire, ben, c'est notre équipe qui a tué, c'est un certain Shecky qui a tiré, c'est un Altieri qui était un membre de l'équipe qui conduisait la moto, et le commanditaire serait quelqu'un qui serait en prison, qui était en prison pour trafic de drogue. Et on va découvrir qu'effectivement, c'est cette fameuse bande dont parlait Eric, qui est une nouvelle forme du banditisme un peu international, pas, qui sont plus truands avec vous savez, les costumes croisés, les trucs, qui ont des jets, qui ont de l'argent. Et puis, là, devant le juge de Suisse, juge de Fribourg, qui est un petit juge, qui s'appelle Piller, dont c'est l'affaire de sa vie, puisqu'il a découvert ça, il va réussir, ces gens-là vont progressivement passer aux aveux et vont progressivement raconter la vérité. Dire qu'effectivement, sur un commanditaire qui était en prison, le meurtre a été organisé, et l'un des et puis à ce moment-là, l'un des tueurs, le tueur, sachez qui, va être arrêté à Paris. Mmh. Et après une nuit d'interrogatoire, il va finir par accepter, se mettre à genoux et dire j'ai tué Jésus, j'ai tué le juge en Verlan. Ouais. Et là, on va repartir en Suisse. Et il y a une scène absolument extraordinaire avec Altieri, qui est le conducteur de la moto, qui lui ne veut pas parler. Et Pilaire, qui est une autre suisse, va aller le voir la nuit, ce qui était vraisemblable en France, toute la nuit, avec une bouteille de Coca-Cola, il va lui parler, il va lui expliquer qu'il a du remords, que quand on a commis quelque chose comme ça, on s'est dédoublé, qu'il faut qu'il revienne à sa vraie personnalité, et il sent une accroche, que cet homme est effectivement à la famille, et Altieri lui dit, écoutez, monsieur, je peux pas, parce que je voudrais parler, mais je peux pas parler, si parce que vous allez vous en servir contre moi. Il lui dit, je vous propose un marché, vous allez me parler, à l'homme, pas au juge. Je vais vous raconter. Et quand je serai plus juge, quand ce sera le juge qui viendra, je m'arrêterai. Et c'est une scène absolument de policier. Et Altieri va raconter. Et à un moment donné, Pierre va dire, bon voilà, maintenant, il faut arrêter, je redeviens juge. Il faut que vous disiez tout ça à votre juge d'instruction. Et le lendemain, Altieri va craquer et va raconter. Et donc on saura exactement comment raconté par les meurtriers comment a été tué Michel.
Voilà, mais le commanditaire dont il parle, Éric Pelletier, est-ce que c'est le bon?
François Girard.
Il va être condamné avec eux. Hein,
de bien sûr, bien sûr, il sera ouais. condamné. Il est, ouais. lui, toujours incarcéré. Après avoir brièvement retrouvé la liberté pour raison médicale, lui ouais. aussi, mais il va retomber dans une autre affaire, donc il est toujours incarcéré. Ouais. Ouais. La question se pose. Il y a là aussi une logique évidente. Il était dans l'un des dossiers de Michel. Michel l'a incarcéré. Il est mis en cause de manière concertée par la plupart des gens dont on vient de parler, donc il y a une logique. Il reste des énigmes dans ce dossier-là. C'est-à-dire qu'en périphérie, ou si on parle de puzzle, il manque deux pièces majeures. Mm-hmm. L'un d'eux, on en a parlé, c'est François Scapula, qui est l'homme essentiel, qui a eu un destin absolument extraordinaire. Et puis un autre, qui est Omer Philippi, qui est aussi un arrière-plan et qui est un voyou de l'ancienne école marseillaise.
Mm. Alors, on va revenir sur Omer Philippi tout à l'heure, parce que c'est le seul mis en cause dans cette affaire. Il n'a jamais été arrêté. Vous dites dans votre livre, il n'est pas mort, parce que vous avez vérifié, en tout cas, personne n'a signalé son décès. Hein,
c'est ça, bon,
voilà,
c'est ça,
voilà. On va dire ça comme ça, parce qu'on meurt rarement dans son lit, dans ces métiers-là. Donc on va parler de lui. Mais d'abord, je voudrais que vous venez de dire, bon, ils avouent, etc., mais après ils vont se rétracter avant le procès. Et en fait, chez qui, au procès, il dit non, c'est pas moi, finalement, etc. Et il va y avoir un rebondissement, comme seuls les procès d'assises peuvent en fournir. Le procès est en cours, on est en juin 88. Le 20 juin, c'est le vrai coup de théâtre parce que pendant l'audience, Tchéki avoue avoir tiré sur le juge. On va écouter ce qu'en disait Alain Hamon qui suivait le procès pour RTL.
C'est la quatrième version de Tchéki, sans doute l'ultime et vraisemblablement la bonne à quelques détails près. Il était 9h10, le président Fayol venait de reprendre l'audience et Tchéki, chemisette rose, veste d'été clair, gourmette d'or à la main droite, montre d'or à la gauche, Tchéki a demandé la parole. Ça aurait pu être théâtral, pas du tout. J'ai lu les journaux, j'ai écouté la radio, on dit que je suis un monstre, mesdames, messieurs, ce n'est pas vrai. De voir la famille du juge Michel devant moi dans l'état où ils sont, je ne peux les laisser dans le doute. Les gens qui sont à côté de moi dans ce box ne sont pour rien dans cette affaire. C'est moi qui étais sur la moto, c'est moi qui ai tué le juge. C'est Scapula qui a demandé à mon ami Altieri de tout organiser. Cette version, il l'avait déjà donnée à la police, sauf qu'il évoquait François Girard, aujourd'hui accusé à ses côtés, et que cette fois-ci, il le dédouane totalement, et que Scapula est en Suisse, d'où il ne veut absolument pas bouger.
Voilà, alors ça c'est vraiment un coup de théâtre judiciaire. On l'a dit, après, ils vont être condamnés à perpétuité avec 18 ans, je crois, de sûreté. Et comme on le disait au début de l'émission, Altieri et Tchéki ont été libérés successivement et dans le sens inverse entre septembre et octobre de cette année 2014. Une pause, ce sera la dernière dans cette émission. Mais on va vous parler de cet Omer Philippi et voir quels sont encore les zones d'ombre qui courent, puisque comme le Girard a été mis hors de cause au cours du procès, alors qui a tué le juge Michel?
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et on revient à cette enquête de Jean-Marie Ponto et Éric Pelletier qui nous dévoile les grands moments, les principaux axes de cette enquête depuis le début de l'heure du crime aujourd'hui. Qui a tué le juge Michel? On a compris qu'on avait parfaitement identifié les assassins et que là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de zone d'ombre de ce côté-là. Quant à savoir qui est le commanditaire, c'est vraiment une autre histoire. Donc, en vous suivant bien, il y a quelques instants, Éric Pelletier, il donne une première version quand ils sont arrêtés de ce Girard, bon, qui est mis plus ou moins hors de cause. Alors, évidemment, il est mis hors de cause par ses complices, mais
il sera condamné par la justice.
Il va être condamné par la justice.
Comme étant le commanditaire.
Et, mais il va sortir avant les deux autres aussi, pour raison médicale, avant d'être réincarcéré. Et il faut, avant d'arriver à Omer Philippi, il faut revenir à ce personnage de Scapula, parce que lui, finalement, il échappe à la justice française, puisqu'il est exfiltré aux États-Unis, c'est un repenti.
Ah, c'est ça, Scapula, il est au centre de tout. C'est-à-dire qu'il a potentiellement autant de mobiles d'en vouloir à Michel que son ami, j'allais dire son frère, François Girard, qui lui est condamné, mais il va s'en sortir beaucoup mieux. Il est en fait l'enjeu d'un jeu diplomatique très très important entre la Suisse, qui à ce moment-là le tient dans ses prisons, sous le surnom d'ailleurs de Casanova, et puis la France, qui le réclame pour être jugé dans les dossiers notamment instruits par Michel, et les États-Unis qui veulent le récupérer parce que c'est un repenti formidable et c'est une encyclopédie vivante sur le crime et sur la mafia. Donc il est au centre de tout. On va l'oublier un peu dans sa cellule suisse, où il restera jusqu'aux années 2000, début des années 2000. Et puis, le premier jour de liberté conditionnelle, il ne rentre pas en prison et pendant un an, on va lui laisser finalement un an pour refaire sa vie. On sait aujourd'hui qu'il a été pris en compte par les services américains, ouais, et qui bénéficie du programme de protection des repentis. Et c'est donc lui qui met en cause la plupart des acteurs de ce drame et qui va mettre en cause aussi un personnage dont on parle moins, qui est une sorte de fantôme dans ce dossier, qui est Omer Philippi.
Alors, qui est cet homme-là, Jean-Marie Ponto?
C'est une autre génération. Il est né en 31, donc c'est le vieux banditisme plus classique. Oui. Et donc, il est au Baumettes, à un moment du crime, et il va être condamné par la justice comme étant l'autre commanditaire. Et c'est là où les choses deviennent un peu curieuses, parce qu'il est arrêté pour des affaires de drogue, et Michel a la volonté de le maintenir un peu en prison, alors que ça tient pas beaucoup. Et on ne sait pas très bien pourquoi Michel veut le tenir en prison. Peut-être parce qu'il pense que c'est un proche de Zampa, c'est clair que c'est un proche de Zampa, et aussi peut-être parce que c'est un homme qui a d'autres relations, dans d'autres milieux, ouais, qui est le vieux banditisme marseillais, un peu lié à la gauche marseillaise de l'époque, de Gaston Defferre, de ce qui vient de l'après-guerre, où il y avait des liens un peu compliqués. Mmh. Et on sent que de ce côté-là, le milieu pousse un peu pour essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que fait ce juge, pourquoi. Et évidemment, Philippe est un peu un lien entre les deux. Ouais. Et donc, il va être. Mais quand après la scène du juge, comme ça n'aboutira pas, il va être libéré. Il va être libéré pour son affaire de drogue en 83. Mmh. On va d'ailleurs découvrir dans les perquisitions de sa femme qui tient un bordel une pièce assez curieuse qui est un permis de visite de l'Assemblée nationale,
bon,
qui prouve qu'il avait quand même des liens un peu particuliers, et qui ne sera d'ailleurs pas mis au dossier parce que le procureur dira faut faire attention, on met les pieds. Et puis, il disparaît dans la nature. Ouais. Il disparaît corps et bien, voilà, totalement. Et
personne n'a plus jamais entendu parler de lui depuis
Il a été recherché récemment par les policiers.
Ouais.
On a été à la mairie de Marseille pour demander s'il y avait une déclaration de décès, parce qu'il aurait pu être déclaré décédé. Il n'y en a pas. Bon. Donc, pour la justice.
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à 6 pieds sous terre.
On espère qu'il réapparaisse.
Dans la Méditerranée.
S'il veut se manifester, on serait ravis.
Il reste 5 minutes d'émission, c'est le 3210. Hein, tout le monde connaît le numéro du standard
d'RTL. C'est vraiment quand même. La vraie énigme.
Lui, il sait.
On ne sait pas très bien. Visiblement, il y a des. Michel faisait peur à beaucoup de milieux.
Comme on arrive vraiment à la fin de l'émission, Zampa, on en a beaucoup parlé. Vivant, Zampa, il va mourir. Alors, est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'on l'a suicidé? Bon, on ne va pas rentrer dans le débat, mais enfin, il meurt en prison, au Baumettes. Hein. Bon. Clairement, il est impliqué pour vous dans cette affaire?
Écoutez, les policiers ne sont pas certains des deux. Ce qui est sûr, c'est qu'il a su très très vite ce qui s'était passé, donc pendant 5 ans, alors que les policiers cherchent, lui il sait.
Ah, il connaît la vérité.
Il sait la vérité, il sait que ce sont des assassins. Est-ce qu'il a, au début, d'autres policiers disent, il l'a su très tôt, il a fait des confidences à certains. Mais on n'a pas la certitude, mais en tout cas, il est au courant très rapidement.
Il nous reste vraiment très peu de temps avant la fin de l'émission, mais je voudrais aborder avec vous, pour terminer, Éric Pelletier, ce que vous dites à la fin de votre livre, c'est-à-dire que au-delà du fait divers dramatique, c'est toute une époque évidemment qui maintenant vraiment enterrée. La drogue est toujours là,
bien sûr,
mais c'est les acteurs n'ont plus rien à voir. Quoi.
Voilà, ouais. ça a totalement changé. Ouais. Ceux dont on vient de parler et qui sont à l'origine de la mort de Pierre Michel, ce sont en fait font la transition entre la vieille époque, celle des caïds, des parrains avec les chaussures vernies, et puis les caïds des cités aujourd'hui. Eux se voyaient à l'époque comme des hommes de d'entreprise. Ouais. Et qui allaient déposer, par exemple, leur argent en Suisse.
Ouais, et il reste, comme le disait Gilles Bertil, lors du 30e anniversaire de la mort du juge, vous le rappelez dans votre livre, il reste un homme qui a eu du courage, avec un C majuscule, en fait.
Absolument.
Je vous remercie beaucoup. On attend, évidemment, avec impatience, la publication du livre, donc, « Qui a tué le juge Michel ?» C'est aux éditions Michel Lafon, et c'est le 23 octobre, donc la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Infiniment. L'émission est terminée. On va retrouver dans un instant, au Mondial de l'Automobile, Flavie Flamand.